Bonsoir, ou plutôt rebonsoir au menu du débat de ce soir, non pas l'Éthiopie, mais l'Érythrée, située dans la corne de l'Afrique, au nord précisément de l'Éthiopie. Ce petit pays est dirigé d'une main de fer par Isaias Afewerki, une prison à ciel ouvert au sens propre, dit-on. Un véritable régime totalitaire, pas d'espace public, pas de constitution, pas d'élection depuis plus de 20 ans. Service national à vie, obligatoire pour les hommes et les femmes, partis politiques et médias privés interdits. En 10 ans, 300 000 personnes ont fui le pays, c'est 10% de la population restante. Une population que l'Union européenne veut, dit-elle, continuer à aider. Elle vient d'annoncer qu'elle allait octroyer 200 millions d'euros de plus à Asmara, ce n'est pas la première fois. Un programme contesté en raison des nombreuses violations des droits de l'homme. Le pays est par exemple à la 179e et dernière place du classement de Reporters sans frontières. Alors peut-on aider financièrement l'Érythrée à combattre la pauvreté? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités à mes côtés dans ce studio. Sonia Le Gourielec, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la zone, de la corne de l'Afrique et puis chargée d'enseignement, entre autres à l'Université Paris-Descartes ou encore à Sciences Po Paris. Et puis ma deuxième invitée est en direct avec nous par téléphone, Marie-Christine Vergiat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée européenne Front de Gauche.
Tout à fait. On estime qu'il ne faut pas non plus couper complètement les relations avec l'Érythrée, avec ce pays, que c'est en continuant à dialoguer, à discuter, à parler avec les autorités, qu'on peut les aider en tout cas à faire les réformes qui sont nécessaires, qu'ils se sont engagés à faire, et à parler de tous les sujets. On parle également des droits de l'homme, de la démocratie, de tous les sujets qui sont évidemment compliqués, mais nous estimons que c'est vraiment en gardant ce lien qu'on permettra de faire avancer les choses, plutôt qu'en les isolant totalement.
Voilà, ne pas couper les relations, ne pas isoler totalement, continuer à dialoguer. Ces mots sont ceux de Catherine Rey. Elle est l'une des porte-parole de la Commission européenne. Nous avons discuté cet après-midi par téléphone. Elle soutient le projet. Sonia Le Gourielec, que dit aujourd'hui la communauté des chercheurs sur ce projet d'aide européenne? Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle n'est pas légitime? Est-ce que la communauté est divisée?
Alors effectivement, c'est une bonne question. Il faut vraiment souligner cette problématique à la fois de la légitimité et de l'efficacité de l'aide que veut apporter l'Érythrée, l'Union européenne en Érythrée. Aujourd'hui, la communauté des chercheurs est plutôt d'accord sur le fait que l'Érythrée est un État totalitaire, donc avec la description que vous en avez fait tout à l'heure.
Là-dessus, pas de débat.
Pratiquement pas de débat. Non, là, les choses sont presque évidentes. Les retours qu'on en a sont évidents. La question maintenant se pose effectivement de la réponse qu'on doit apporter. Et là, il y a plus de division entre ceux qui pensent qu'il faut vraiment marginaliser le régime et faire tout ce qu'on peut avec des sanctions, notamment pour faire tomber et accélérer la chute du régime, parce qu'on est d'accord que le régime va tomber.
Sanctions qui d'ailleurs existent de la part du Conseil de sécurité de l'ONU. Elles ont été votées. Et de l'Union européenne. Elles existent.
Il y a des sanctions, effectivement, et un embargo sur les armes de l'ONU et aussi de l'Union européenne. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a vraiment, c'est une division à savoir est-ce qu'il faut continuer à dialoguer, ne pas se couper du régime, ne pas laisser cet État totalitaire dans sa petite bulle et mettre en place son idéologie et contrôler la population. Mais une question se pose, est-ce qu'on peut aujourd'hui dialoguer avec Isaias Afewerki? Est-ce qu'on peut se dialoguer avec cet homme qui a beaucoup menti, qui a montré ce qu'il était capable de faire? Et je pense qu'on ne peut pas penser ou réfléchir à la nouvelle Érythrée, à la future Érythrée, avec Isaias Afewerki. Je ne pense pas qu'on peut dialoguer.
Donc, si je comprends bien, votre sentiment est plutôt celui de « il ne faut pas aujourd'hui aider financièrement à lutter contre la pauvreté ».
On ne peut pas aider. On ne peut pas parler avec Isaias Afewerki. Il faut aider la population, mais par quel biais? Comment? Toute la question est là, parce que je ne sais pas si l'Union européenne va pouvoir aider à lutter contre la pauvreté. Qui va-t-elle aider? Par quel biais? Comment? Quelles sont les modalités?
Alors, Marie-Christine Vergiat, vous avez une position tranchée sur le sujet. Pour vous, l'Union européenne fait une erreur en ayant décidé de continuer à aider l'Érythrée?
D'abord, c'est pas continué parce que M. Afewerki avait lui-même dit qu'il n'avait pas besoin de l'Union européenne. Puis d'un seul coup, depuis l'année dernière, il a de nouveau besoin de l'aide de l'Union européenne et l'Union européenne à court. Donc c'est vrai que ça me perturbe parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Avec qui, pour faire quoi et au bénéfice de qui? Compte tenu de ce qu'elle hériterait aujourd'hui, malheureusement,
ce que l'on peut penser, c'est que ce sera au bénéfice de M. Afewerki et des quelques personnes qui, autour de lui, détiennent le pouvoir en Érythrée. Donc, au lieu de desserrer l'étau, on va renforcer le dictateur et ses sbires, si vous me permettez cette expression. Donc, et on est dans une logique globale, d'ailleurs, hein, il faut peut-être le dire, d'une logique globale de dialogue de l'Union européenne avec les pays de la Corne de l'Afrique, qui sont dans des situations diverses. Mais
ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas assez de différenciation entre l'Éthiopie, par exemple, la Somalie et l'Érythrée dans la politique de l'Union européenne à l'égard de la zone.
Oui et non. On est parti depuis plusieurs années maintenant dans un cadre stratégique pour la Corne de l'Afrique qui doit se décliner dans les pays. Mais tout ça est recouvert, notamment depuis l'année dernière, par ce qu'on appelle le processus de Khartoum et ce que j'appellerais moi volontiers l'obsession de l'Union européenne à empêcher les migrants de venir sur le sol de l'Union européenne. Parce que qu'est-ce qui déclenche ce dialogue de l'Union européenne avec l'Érythrée? C'est le fait que les Érythréens sont parmi les premiers réfugiés.
Avec les Syriens et les Afghans, effectivement, dans les flux qui arrivent.
Et parmi ceux qui meurent en Méditerranée.
Je voudrais justement qu'on revienne sur quelque chose que vous venez de nous dire. L'Europe dit, nous n'aidons pas le gouvernement, nous aidons le peuple. Il n'y aura pas de détournement dans cette aide. Je vous propose qu'on écoute à ce propos de nouveau Catherine Rey et ensuite on en parle tout ensemble.
L'objectif de notre politique de développement, c'est d'aider les personnes en Érythrée, mais comme en Somalie ou bien en Éthiopie ou dans tous les pays africains et tous les pays dans lesquels on fait de l'aide au développement pur. On ne soutient pas un gouvernement, on soutient les populations.
Ouais. Est-ce que vous avez des garanties quant à la destination de l'aide ?
Mais en fait, comme tous les fonds européens avec lesquels on aide les pays en développement, on a des méthodes et des moyens de contrôler évidemment l'aide que l'Union européenne attribue dans tous les pays. On a des systèmes très précis de reporting, d'audit, soit à travers des mécanismes de la Commission elle-même, soit à travers des mécanismes d'audit privé. On a une Cour des comptes au niveau européen qui chaque année nous fait un bilan de la manière dont on utilise l'aide dans tous les pays en développement. On a le Parlement qui nous demande des comptes. Donc oui, la manière dont l'argent est utilisé et contrôlé.
Donc il n'y aura pas d'aide détournée.
C'est compliqué de vous dire oui ou non de manière extrêmement affirmée, mais en tout cas, quand on regarde les rapports de la Cour des comptes ces dernières années, à aucun moment on a eu de problème majeur ou fondamental d'aide détournée.
Alors, on ne soutient pas un gouvernement, mais on soutient un peuple. Sonia Le Gourielec, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à la Commission européenne? Est-ce qu'on peut dire ça?
Alors, trois points me semblent importants. Déjà, mettre en évidence une sorte de bizarrerie. Les accords de Cotonou font que l'Union européenne suspend son aide lorsque un État subit un coup d'État dans son pays. Donc, ça a été le cas de Madagascar, de la Mauritanie. Et là, on va être dans le cas où on va aider un État et un régime qui n'a ni constitution, ni élection et qui a des atteintes graves aux droits de l'homme. Je vous rappelle qu'effectivement...
Vous dites deux poids, deux mesures, en gros.
Bah, c'est assez surprenant. Je comprends pas la structure juridique, en fait, de la chose. Je pose la question. C'est très, très étonnant. En plus, qui sera l'interlocuteur? On a bien compris qu'il y aura des modalités de contrôle. Alors, je veux voir effectivement comment ça va être mis en œuvre. C'est les questions principales qu'il faut regarder de près. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'interlocuteur principal, l'ordonnateur national de la Fed et donc de l'aide de l'Union européenne dans la région, sera le ministre des Finances érythréen. Donc le régime. Pourquoi ça ne sera pas des agences de l'ONU, comme on peut le voir ailleurs? Pourquoi ne ce sera pas des ONG? Tout simplement parce qu'il n'y en a pratiquement pas dans le pays. Donc on est obligé de se retourner vers le régime pour surveiller. Donc c'est un peu surprenant. Et on peut rappeler que l'ONU a sorti un rapport récemment sur la Somalie et sur l'Érythrée qui rappelle qu'il y a de la contrebande, qu'on ne peut pas croire le régime.
Alors justement là-dessus, peut-être votre réaction, Marie-Christine Verger, est-ce qu'on vous a donné des garanties à Bruxelles là-dessus? Est-ce qu'on vous a dit si, on a des vraies modalités de contrôle? Non, nos interlocuteurs ne seront pas exclusivement le régime érythréen.
Ben ça, on ne peut pas nous dire que ce ne sera pas exclusivement le régime érythréen, parce qu'il n'y a que le régime érythréen comme interlocuteur, comme cela vient d'être dit. Ce n'est pas la peine que je développe. Et on nous dit que parce que l'essentiel, on nous dit qu'on va aider à la création d'emplois dans le pays. dont acte, tant mieux. Mais dans le pays, les entreprises sont des entreprises nationales, donc dirigées par des représentants du gouvernement. Et on veut nous faire croire qu'on va arriver à développer des entreprises à côté. Donc nous, nous n'y croyons pas, parce que ce régime, c'est pas un régime nouveau, ça fait 20 ans que c'est une dictature totale.
Mais est-ce que cela veut dire que vous pensez que cette aide peut aider le régime concrètement ?
Ah ben, je pense que ça va aider le régime, oui. Et ses sbires. Mais ça ne va pas aider la population.
Et Sonia Elgoyalet, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez effectivement que cette aide peut se retourner, être contre-productive en fait ?
Alors soyons clairs, le régime va tomber. Le régime est en fin de vie, donc il va tomber un moment. Là, ce qu'on permet, c'est de prolonger un peu le régime. Au mieux, il aidera un petit peu la population, j'en ai des doutes. Au pire, eh ben, il prolonge un peu l'état de mort du régime qui tombera un peu plus tard. Et en plus, c'est un mauvais pari pour l'avenir, pour l'Union européenne, parce que si elle essaye effectivement de se positionner dans le pays à horizon, en visant une accélération de l'histoire et une chute de régime, elle se met pas en bonne position vis-à-vis des futurs gouvernants, j'imagine. Puis surtout, il y a une erreur de diagnostic. Et initialement, on a l'impression que ces migrants sont des migrants économiques. Donc on donne du crédit au régime politique, on donne du crédit à Isaias Afwerki, qui dit que les gens fuient parce qu'ils se parlent à cause de la pauvreté, etc., etc. C'est faux. Il veut être le médiateur d'une crise où il est le responsable. Il est le responsable
de
cette crise.
Vous dites que ce ne sont pas des réfugiés économiques, ce sont des réfugiés strictement politiques.
Et en plus, la preuve en est, lorsqu'ils arrivent en France, ils ont pratiquement automatiquement, si on peut prouver qu'ils sont érythréens, le statut de réfugié. Donc on leur reconnaît. C'est tout le paradoxe. On reconnaît que c'est un régime dictatorial, voire même totalitaire, et qui fit subir les pires atrocités à sa population. Il y a même une enquête pour des crimes de masse commis par le régime dans le pays. Donc on a les preuves, mais on va aider. Donc c'est assez paradoxal, la situation. Alors du coup, il faut plutôt s'interroger aussi pourquoi l'Union européenne fait cela. Elle n'est pas naïve, elle en a sûrement conscience. Alors il faudrait creuser un petit peu.
Mais alors vous me disiez quand même, en préparant cette émission, qu'il y avait peut-être une sorte de méconnaissance quand même du terrain. Alors expliquez-nous.
C'était ma première hypothèse, de me dire il y a une méconnaissance du terrain. Après, je me suis dit non, ça n'est pas possible. Il y a une véritable... Il y a des gens très compétents à l'Union européenne. Ils en sont tout à fait conscients. Donc la deuxième hypothèse est tout simplement qu'il faut aujourd'hui réagir à la crise migratoire. Il faut bloquer les flux migratoires. Et donc on permet au régime de bloquer en interne. On compense peut-être des pertes financières parce que certains caciques du régime gagnent de l'argent sur les trafics de migrants. Donc on permet peut-être de compenser. Et il y a peut-être aussi des choses plus inavouables. Il y a peut-être des États européens qui font un peu de pression à l'Union européenne parce que on aurait découvert du pétrole. Enfin, il y a du pétrole depuis longtemps, mais les licences n'ont pas été attribuées.
Il y a quelques richesses dans les sols érythréens, effectivement.
De l'or notamment, mais aussi du pétrole. Il faudra donner les licences. Donc, est-ce qu'il y a des États européens qui sont intéressés plus particulièrement par ça ? Certains États européens sont plus présents pour le business. Donc, voilà, est-ce qu'ils veulent se positionner en imaginant la suite ?
Alors là-dessus, Marie-Christine Verger, est-ce que vous qui émettez publiquement ces oppositions, est-ce que vous êtes entendue ?
Pour le moment, non, mais on va continuer la bataille, parce qu'effectivement, il y a une grande contradiction. La ministre des Affaires étrangères luxembourgeoise, je précise que Luxembourg assure la présidence de l'Union européenne en ce moment, nous a encore redit cet après-midi qu'il n'était pas question de renvoyer les réfugiés vers l'Érythrée, parce que l'Érythrée était une dictature. Donc on marche effectivement complètement sur la tête. Et quand on lit le communiqué où l'Union européenne explique les conditions dans lesquelles elle veut octroyer l'aide de l'Union européenne à l'Érythrée, on a l'impression que l'Érythrée est un pays banal avec qui on dialogue. Et par rapport à ce que disait
Sonia Le Gourielec,
l'Union européenne sait très bien ce qui se passe en Érythrée puisque l'Union européenne a un bureau en Érythrée.
Et est-ce que pour
autant... régulièrement les caciques du régime nous disent téléphonez donc aux représentants de l'Union européenne en Érythrée.
Mais est-ce qu'on peut quand même se permettre, Marie-Christine Vergia, de ne pas du tout aider l'Érythrée ? Est-ce que ce ne serait pas aussi alimenter dans un sens le discours du président qui dit nous sommes totalement isolés en les aidant ?
On dit qu'on ne veut pas accorder d'aide, on dit aucune aide économique, mais on laisse l'aide humanitaire.
Sonia Le Gourielec, sur ce sujet.
L'Union européenne a donné de l'aide humanitaire à l'Érythrée, qui est par ailleurs un des pays les plus pauvres du monde, l'avant-dernier sur le classement IHD.
Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas aider financièrement, mais aider de manière humanitaire, Sonia Le Gourialec ? On peut ?
Alors, a priori, puisque ça a l'air de se faire, mais néanmoins, il n'y a pas de résultat, d'après ce que j'entends, donc c'est que ce n'est pas si efficace. Non, là, aujourd'hui, la question, la solution, c'est ce qu'il faut, il faut vraiment discuter de ça. Ça n'est certainement pas d'apporter une aide financière. On sait qu'elle ira aux mains des caciques et du régime. La solution, c'est pas de discuter avec Isaias Afewerki. On a vu pendant 20 ans qu'on ne pouvait pas discuter avec lui.
Mais on peut avoir des rapports avec le pays sans passer par les autorités, alors qu'il n'y a pas de secteur privé.
On a des rapports. La France a une représentation là-bas, une ambassade là-bas, donc on maintient le dialogue malgré tout, on maintient un dialogue. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, est-ce que tous les régimes, pour l'instant toutes les chancelleries ont opté pour la stratégie du pourrissement, on attend. Le régime est en fin de vie, notre allié c'est le temps, on attend que le régime tombe. Bon, il va peut-être falloir accélérer la chose, il va peut-être falloir renforcer les sanctions. Je sais qu'il y a un débat aussi là-dessus, est-ce que les sanctions servent à quelque chose ? Oui, on n'est pas obligé de passer par l'ONU, les sanctions ça peut être aussi au niveau européen. Les sanctions ça peut être sur l'argent récupéré auprès de la diaspora, puisque le régime ponctionne une partie des revenus de la diaspora.
Mais alors certains disent aussi renforcer les sanctions, c'est étouffer la population. Et donc, c'est finalement pas forcément agir sur le régime, mais agir sur la population. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ?
La population, elle fuit. C'est une hémorragie migratoire. Aujourd'hui, la population s'enfuit.
Donc... Marie-Christine Vergère, j'entends que vous voulez répondre.
Oui, aujourd'hui, la population, elle ne bénéficie de rien. La population, elle est exsangue, donc ce régime sera en place. On n'aura aucune solution. Et aujourd'hui... on donne à M. Afewerki une reconnaissance internationale après laquelle il court. Hein, donc on lui permet de continuer l'écrasement de sa population. Quand j'entends, moi, le régime va tomber, peut-être. Monsieur Afewerki est, paraît-il, malade et risque effectivement de mourir dans les mois qui viennent. Mais le discours que j'entends dans les instances de l'Union européenne me rappelle curieusement le discours que j'entendais par rapport à la Libye avant la chute de son dictateur. Le dictateur allait, paraît-il, tomber, donc il faut discuter avec l'entourage pour préserver la suite. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on va préserver le maintien d'un régime au-delà de la mort de M. Afewerki.
Alors, je voudrais vous poser une question, Sonia Le Gourialec. On en avait parlé là aussi juste avant cette émission. Vous nous disiez aussi que le rôle de l'Europe pourrait être, par exemple, de relancer la diplomatie entre l'Érythrée et l'Éthiopie, qui ont cette longue frontière 1000 kilomètres qui n'est pas réellement déterminée, et que ça pourrait être un levier pour tenter d'agir sur la situation.
Oui, effectivement, les leviers, ils sont internes, on en a parlé. Les leviers sont auprès de la diaspora, je l'ai évoqué. Les leviers sont également régionaux. Il faut se poser la question, pourquoi l'Érythrée en est là aujourd'hui ? Pourquoi le régime s'est radicalisé ? Pourquoi l'Érythrée était regardée avec des yeux bienveillants au début des années 90, lorsqu'elle a accédé à son indépendance ? Et pourquoi aujourd'hui elle est bannie et elle est au banc de la communauté internationale ? Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, l'Érythrée a pris son indépendance de l'Éthiopie et une guerre a mis fin à tout le processus pour se reconstruire après 30 ans de guerre de libération en 98, donc un conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée sur le tracé de la frontière. Et le problème, c'est qu'une décision arbitrale avait donné une portion de la frontière qui était en question, justement.
Je suis désolée de vous presser, mais il nous reste 45 secondes pour l'expliquer. Alors, du coup, là-dessus, sur ce conflit territorial, que pourrait faire l'Union européenne ?
Alors, l'Érythrée reproche à la communauté internationale de ne pas avoir fait pression sur l'Éthiopie pour respecter le droit international. Et donc, peut-être, l'Union européenne pourrait faire un peu plus pression sur l'Éthiopie, qui est parfois un peu négateur de droit dans la région.
Marie-Christine Vergès, sur ce point, en quelques secondes, est-ce que vous pensez que la diplomatie pourrait être une des solutions ?
La diplomatie pourrait être une solution, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui va arriver parce qu'on commence à voir des renvois d'Érythréens vers l'Éthiopie. On est en train de faire des systèmes de triangulaires dans la Corne de l'Afrique qui sont des choses insoutenables et qui vont au contraire permettre à ces régimes de perdurer. Et si je peux rajouter une phrase, je pense qu'il y a une solution aujourd'hui avec laquelle il faut utiliser, c'est la diaspora et notamment l'impôt que le régime érythréen perçoit sur cette diaspora.
Ce dont parlait à l'instant Sonia Le Gourialec. Je suis obligée de vous couper. Merci beaucoup. Marie-Christine Vergère, députée européenne. Merci à Sonia Le Gourialec, docteur en sciences politiques, spécialiste de la Corne d'Afrique. Merci également à Valentin Vanner et à Florence Pons. On se retrouve demain pour un nouveau débat.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Le comité